France Info. France Info.
Après Shanghai en 2010 et peut-être Paris en 2025, c'est Milan en Italie qui accueille l'exposition universelle cette année. Elle est ouverte jusqu'au 31 octobre, on y attend 1 million de visiteurs. À quoi servent les expos universelles? Qu'est-ce qu'on y présente? Pour répondre aux questions de nos petits journalistes, des CM2 de l'école Romainville de Paris, Ivan Prostakov, il est conseiller au Bureau international des expositions, l'organisation qui encadre et qui réglemente les expos universelles.
Ça a été inventé par qui et surtout où?
La première exposition universelle a été organisée à Londres, en Angleterre, en 1851. Elle était organisée parce que c'était l'époque de la révolution industrielle, des machines, des chemins de fer, des usines commençaient à faire partie de notre vie. Parfois, les gens étaient effrayés, ne comprenaient pas qu'est-ce qui c'était. Et donc, on a pensé de montrer au public les merveilles de cette révolution industrielle. En même temps, l'Angleterre a voulu aussi manifester sa puissance économique et commerciale. C'était une vitrine de l'excellence d'un pays et des pays qui participent.
Question d'Aïcha.
Est-ce qu'à l'époque, il y avait des choses qu'on connaît aujourd'hui qu'ils les présentaient?
Oui, tout à fait. Chaque exposition présentait des choses qu'on ne connaissait pas avant, mais qui entraient dans notre vie quotidienne. C'est grâce aux expos que nous avons connu le téléphone, la machine à coudre, le train électrique, l'ampoule électrique, la voiture hybride. C'est 1974 aux États-Unis. Donc chaque expo, c'est une aperçu du futur.
Est-ce que cette année, il y aura des choses étonnantes?
Sans aucun doute, on aura des choses étonnantes liées au thème de l'Expo de Milan. Le thème, c'est nourrir la planète et énergie pour la vie. Mais normalement, les participants ne dévoilent pas ce qu'ils veulent présenter. Mais on peut imaginer que peut-être on pourra goûter des produits de la nourriture du futur ou revenir au goût d'antan qu'on a déjà oublié ou voir une cuisine connectée et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on va retrouver des solutions pour nourrir toute notre planète, la population de laquelle devient de plus en plus nombreuse et pour laquelle le problème de la malnutrition dans certains pays est un problème majeur.
Merci de nous avoir révélé quand même un ou deux petits secrets. Aïcha.
Est-ce que les personnes qui font l'exposition universelle laissent leurs affaires dans le pays où ils ont fait l'exposition ou ils les ramènent dans leur pays d'origine?
Disons, en tout ce qui concerne les objets exposés, normalement, ils rentrent dans leur pays d'origine. Et il y a aussi les pavillons. D'après les règles du Bureau international des expositions, normalement, les pavillons sont démantelés. Mais parfois, ils restent, ils servent à d'autres choses ou ils sont reconstruits dans d'autres endroits. Par exemple, le Monaco pour l'Expo 2015 de Milan pense de réaffecter son pavillon au profit de la Croix-Rouge et de l'installer au Burkina Faso.
Jordan.
Y a-t-il un trophée à gagner?
Il y avait des trophées qu'on décernait à des produits innovants dans les expos du 19e siècle. Maintenant, ce qu'on fait surtout, c'est on prime les pavillons les plus intéressants pour leur architecture, leur design et leur contenu.
Ivan Prostakov du Bureau international des expositions. Plus souvent qu'une exposition universelle, le nouveau dico, il revient lui tous les ans. Chaque année, les nouveaux dictionnaires intègrent plus d'une centaine de nouveaux mots, de nouvelles expressions, des mots qui collent à l'air du temps. Mais comment ces nouveaux mots sont-ils choisis? Qui les sélectionne? Au micro France Info d'Estelle Faure, des 6e du collège Elsa Triolet de Paris. Et pour leur répondre, Maddy Vinci-Guerra, c'est une ancienne directrice éditoriale du Petit Larousse.
Comment il s'appelle celui qui a inventé le dictionnaire? S'il a inventé ça pour se faire de l'argent, pour être riche ou pour aider les gens qui ne savent pas trop parler français?
Voilà une bonne question. Le premier auteur de dictionnaire français s'appelait Richelet. Et le premier dictionnaire donc date de 1680. Ensuite, bien sûr, on en a eu d'autres comme Furtière, Émile Littré, Pierre Larousse. Voilà, mais il ne faisait pas ça pour devenir riche. Je pense qu'il faisait ça pour essayer d'instruire tout le monde et puis par goût, parce que c'était des gens extrêmement cultivés, extrêmement érudits.
Question de Kainara.
Qui est-ce qui rajoute tous ces mots chaque année dans le dictionnaire? Est-ce que c'est des écrivains?
Eh bien, ce ne sont pas des écrivains, ce sont des rédacteurs lexicographes qui écoutent la radio, qui regardent la télé, qui lisent les journaux et qui enregistrent les mots qui apparaissent pour la première fois. Alors, ils attendent d'avoir plusieurs attestations et à ce moment-là, on enregistre tous les mots nouveaux.
Comme il y a beaucoup de mots qui rentrent dans le dictionnaire, est-ce qu'il y en a qui en sortent? Parce qu'après, sinon, le dictionnaire, il serait énorme.
Oui, Kainara, c'est vrai qu'il y en a qui sortent chaque année. On doit faire de la place, c'est vrai, parce que dans un dictionnaire papier, lorsqu'on ajoute, il faut de temps en temps retrancher. Mais on ne retranche pas, on n'enlève pas les mots pour les enlever. Ce sont des mots qu'on n'utilise plus du tout ou beaucoup moins.
D'ailleurs, c'est plus facile de choisir les mots qui entrent ou ceux qui sortent?
Je pense que c'est plus facile de choisir les mots qui entrent parce que les suppressions, ça pose toujours un problème au lexicographe. C'est vrai que le lexicographe, il enregistre la langue, il ne porte pas de jugement de valeur. Donc, supprimer un mot, c'est toujours un peu délicat et un peu difficile.
Mehdi.
Pourquoi on met des gros mots sur un dictionnaire? Parce qu'il y a les petits, si jamais ils voient, ils vont dire ça à leur mère et leur mère, elle va devenir folle.
Comme je le disais tout à l'heure, le dictionnaire ne juge pas un mot. Il entre dans le dictionnaire parce qu'on l'utilise. Et il y a des gros mots qu'on utilise de façon assez régulière. Voilà.
Et c'est le cas des bolos qui entrent cette année. Kainara.
Qui est-ce qui a inventé tous ces nouveaux mots qu'on utilise maintenant?
On n'a pas inventé ces mots. Les mots arrivent tout seuls. Ils se forment. La langue française, comme toutes les langues, évolue. C'est une langue vivante. Elle a des apports réguliers.
Pourquoi est-ce qu'il y a des âges pour les dictionnaires? Pourquoi il n'y aurait pas un dico pour tout le monde?
Mais il y a des dicos pour tout le monde. D'ailleurs, sur Internet, c'est un dico pour tout le monde. Et il y a des dictionnaires papier pour des enfants, par exemple, qui ont 7-8 ans. Il y a certains dictionnaires où le vocabulaire est adapté parce que c'est vrai qu'il faut que le mot soit compris par tout le monde, y compris les mots soient compris par tout le monde, y compris par les enfants. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser un dictionnaire comme un petit Larousse, un petit Robert. Je crois que c'est donné à tout le monde, en tous les cas.
Fiona.
Pourquoi on fait des dictionnaires papier alors qu'on pourrait mettre tout sur Internet? Nous, les jeunes, on n'utilise pas vraiment le dictionnaire papier.
Oui, c'est vrai que vous, les jeunes, vous avez tendance à ne plus utiliser le dictionnaire papier, mais il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent le papier. C'est comme les romans, comme la littérature. Il y en a qui vont lire sur leur tablette et d'autres sur le papier. Donc, il faut laisser le choix.
Et puis, je crois que les enseignants préfèrent quand même encore le dictionnaire papier parce qu'il permet d'apprendre à chercher dans le dictionnaire. Allez, Mehdi.
Dans quelle année vous penserez que tous les dictionnaires seront supprimés?
Moi, je crois que les dictionnaires ne seront jamais supprimés. De toute façon, c'est vrai qu'il y a Internet. Et puis, c'est vrai que le dictionnaire papier, comme le soulignait Gilles Allais, permet de naviguer d'une page à l'autre, d'aller rechercher le mot, d'aller rechercher l'orthographe. Je crois qu'en fait, les deux supports, que ce soit le dictionnaire et l'ordinateur, Internet, tous ces supports, finalement, se conjuguent pour aider tout le monde et pour essayer de faire évoluer et d'instruire tout le monde. Voilà.
Mehdi Vinciguerra, ancienne directrice éditoriale du Petit Larousse, Selfie, Bolos, Adolescent ou encore Big Data font donc leur entrée dans le Dico en 2016. Et parmi les personnalités, Cabu ou encore Charb, dans les pages des noms propres bien sûr.